Radio Okapi.
Oh, Okapi. Le journal Pascal Masirika.
Au sommaire de cette édition, remise et reprise ce vendredi à Kinshasa entre le nouveau président de la CENI et son prédécesseur Corneille Nangaa. Denis Kadima a pris l'engagement d'écouter les Congolais en prélude aux élections inclusives et transparentes de 2023. 10 cas de coronavirus détectés cette semaine en Ngandajika. Selon l'assistant de l'administrateur du territoire, il s'agit des contaminations importées. Jean-Marie Kabeya plaide pour l'acquisition urgente des médicaments et des intrants essentiels pour faire face à cette pandémie. Notre invité, c'est le chargé de programme à Interpis. Bienfait Mouigiroa parle de la gouvernance inclusive, un projet lancé dans la région du Kasaï. Objectif, consolider la paix après les événements de Kamouina-Nsapu. Madame, Messieurs, bonsoir. Cérémonie des remises et reprises ce vendredi à Kinshasa à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le nouveau président, Denis Kadima, s'est engagé à écouter les Congolais en prélude aux élections inclusives et transparentes de 2023. Engagement pris en présence de son prédécesseur, Corneille Nangaa. Le compte-rendu avec vous, Jeff Ngoy.
Premier dossier à traiter par l'équipe Kadima de la semaine prochaine, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province.
Sur ce point, la nouvelle commission électorale convoquera une assemblée plénière des membres au début de la semaine prochaine, centrée essentiellement sur cette matière. Je voudrais pouvoir compter sur chacun afin que nous appuyions sur les compétences et aptitudes des uns et des autres, que nous puissions réaliser ensemble un cycle électoral crédible et inclusif. Il suffit d'une écoute soutenue et permanente de nos populations, ainsi que d'une bonne coordination des intelligences et des efforts de tous pour y arriver.
L'engagement de Denis Kadima, président de la CENI.
Notre équipe et moi-même s'engagent à associer toutes les parties prenantes en amont et en aval de nos activités, de sorte que le processus ne reste pas l'œuvre de la seule CENI, mais qu'elle soit un résultat partagé de tous.
Mission accomplie pour Corneille Nangaa qui donne quelques conseils à son successeur.
Ce qui concerne les menaces, veillez à ce qu'ils ne portent pas préjudice au processus. La République vous regarde et nous espérons que vous allez atteindre l'objectif en réalisant la mission qui vous est donnée par le peuple.
Autre nouvelle, dans la province de Lomami, 6 cas de coronavirus ont été détectés cette semaine en Ngandajika, cité située à plus ou moins 90 km de la ville de Mbujimayi. L'administrateur assistant parle des contaminations importées. Jean-Marie Kabeya Mpenza demande par conséquent aux autorités sanitaires de pourvoir le plus rapidement possible la zone en médicaments essentiels et en intrants pour faire face à l'épidémie. Il est au micro d'Esther Ndalafina.
Il y a 6 cas confirmés par les tests qui sont utilisés par notre personnel technique chargé des prises en charge. Donc ça fait pratiquement 6 personnes maintenant. Dans le total, avec les 4 de septembre, ça fait 7 dont 1 guéri et 6 sous instance de traitement. Il n'y a pas de décès. C'est une contamination importée. Il y a un besoin pressant en intrant. Donc la zone de santé de Ngandajika qui est chargée de la prise en charge n'a pas assez d'éléments fournis pour la prise en charge de tous les cas que nous avons. Donc il va falloir que l'on prenne des mesures urgentes au niveau du pouvoir central et au niveau du pouvoir provincial pour pouvoir ravitailler les territoires de Ngandajika où le coronavirus est déjà déclaré pour que en cas d'éventualité qu'on continue à prendre à assurer une prise en charge adéquate et permettre qu'il y ait le rétablissement rapide des patients.
Non loin de là, le forum de Ngandajika s'est poursuivi ce vendredi pour la deuxième journée consécutive sur les villages et l'avenir de l'Afrique noire. Ces assises sont organisées par le projet Ditunga. À cette occasion, le président de la Cour constitutionnelle a parlé du statut juridique du village dans le Congo colonial et post-colonial. Pour sa part, le penseur et écrivain Pi Tshibanda Wamuela, vivant en Belgique, est revenu quant à lui sur le complexe des villageois, diagnostic et thérapie d'une maladie sociale. En Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Les participants ont posé plusieurs questions sur le réel statut juridique d'un village et les opportunités pour son changement dans le but de promouvoir cette entité de base. Dr Germain Ntumba s'adresse au président de la Cour constitutionnelle.
Dans la différence entre les villages dans le Congo colonial et le Congo post-colonial, nous dire quels sont les avantages et les inconvénients.
Réponse de Dieudonné Kalouba.
Le village est une entité déconcentrée, c'est-à-dire n'a pas des organes propres, n'a pas de personnalité.
et juridique. Par conséquent, il ne s'exerce pas une tutelle administrative.
L'exposé sur le complexe du villageois a été décortiqué par le penseur et écrivain vivant en Belgique, Pichu Banda. Il a encouragé les habitants du village à valoriser leurs talents souvent recherchés en ville.
Tu viens du village ? Tu sais tisser des nattes. Tu sais couvrir une maison avec de la paille. Mais parce qu'on sont dans une inversion de valeur, villageois devient une insulte. Alors il va souffrir du complexe d'infériorité. Il va être timide. S'il y a des gens, il ne veut pas s'exprimer.
Signalons que des sujets liés au conflit entre le village et la ville sont revenus dans plusieurs exposés. De Ngandanjeka, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Et puis le numéro 3 de la MONUSCO en charge des actions humanitaires en RDC et 6 ambassadeurs ont achevé ce vendredi leur visite de 3 jours au Kasaï et au Kasaï central, à quelques mois après le départ de la mission onusienne de la région. David Maklaklankar parle de la nécessité de mettre en œuvre le plan Nexus avec les agences et d'autres partenaires locaux sur la réponse humanitaire, les projets de développement mais aussi la restauration de la paix après les violences qui ont secoué la région. Il s'est confié à François Kadima.
Premièrement, on a des projets maintenant pour aider les communautés de rétablir activités agricoles avec les livraisons des semences, outils, mais aussi accès surtout pour les femmes à la terre. Le deuxième axe, la réintégration communautaire et la stabilisation, surtout pour les populations déplacées. Troisièmement, c'est la bonne gouvernance. Nous allons des projets conjoints pour renforcer les capacités étatiques, surtout pour la gestion des ressources naturelles, l'administration publique. Quatrième axe, on a comme un projet de renforcer les services de base, des projets conjoints pour l'éducation et dans la santé. Pensons qu'une priorité pour les Kasaï, c'est vraiment de rétablir les services de base à la population parce qu'ils sont assez faibles depuis des années des conflits et des années des manques d'investissement.
Partons maintenant pour le Nord Kivu où la commission des mouvements des populations à pied d'œuvre dans les territoires de Lubero alerte sur les mauvaises conditions de vie des déplacés vivant actuellement à Mihobwe dans la chefferie de Batangi. Cette organisation locale indique que ces personnes n'ont rien à manger étant donné que leurs champs sont envahis par des miliciens Maïmaï. À Butembo, grâce à Mouzati.
La CMP, Commission des mouvements des populations, cite notamment les villages Boussavali, Karimbi, Bukumerwa, Kasiki et Kitobindo. Joseph Matata, président de cette organisation, affirme que les miliciens du FPP-AP de Kabido exigent à chaque cultivateur une somme de 2000 francs congolais et une quantité de vivres en vue d'accéder à leurs champs se trouvant dans ces villages occupés. Ceux qui y accèdent sans présenter les jetons de paiement sont soumis à des amendes allant jusqu'à 50 dollars américains. La CMP indique que la bourgade de Miobwe et celle de Bukumerwa voisine compte à ces jours 2636 familles déplacées. La CMP tire ainsi la sonnette d'alarme en vue de voler au secours de ces nécessités exposées à la malnutrition. La société civile locale invite pour sa part les forces de sécurité à mettre fin à l'activisme de ces miliciens dont les leaders avaient pourtant adhéré au processus de paix. Le chef de la chefferie de Batangi, Mwamistou Kamwanaweka, qui confirme ces faits, appelle les autorités militaires à prendre des dispositions utiles. Nous n'avons pas réussi à joindre l'administrateur du territoire des Lubero à ce sujet. Butembo, grâce Amzati, Radio Kapi.
Dans un autre chapitre, le directeur d'Afrique et de l'Océan Indien au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères appelle la communauté internationale à avoir un regard très attentif sur la situation qui prévaut ces jours-ci dans l'est de la RDC. Christophe Bidot a lancé cet appel au sortir d'un entretien d'hier jeudi après-midi à Goma avec le gouverneur du Nord Kivu dans le cadre d'une tournée d'évaluation de la situation sécuritaire. À Goma, Bernard Denyangui.
M. Christophe Bigot a dit aux médias que sa tournée vise, entre autres, à évaluer l'appui de la France à l'ère du Congo sur notamment le plan culturel et du développement. Il a par ailleurs insisté sur les interventions de son pays comme un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le plan de la restauration de la paix dans l'est du Congo.
Dans quelques semaines, le mandat de la MONUSCO va devoir être renouvelé. Et je pensais que c'était important de voir le gouverneur pour évoquer avec lui ce que la France fait pour que la MONUSCO puisse appuyer les efforts des forces forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de l'état de siège, j'ai pu moi-même m'en rendre compte puisque je suis allé hier à Beni. Je trouve que c'est important que la communauté internationale puisse avoir un regard très attentif à ce qui se passe ici dans l'est de la RDC. Chaque jour apporte son lot d'attaques, de massacres, qui dépassent d'ailleurs maintenant la RDC. Donc c'est essentiel de pouvoir mieux le comprendre pour pouvoir y répondre de la manière la plus appropriée.
Monsieur Christophe Bigot précise avoir commencé sa tournée dans la région par Kinshasa avant de poursuivre son périple à Kigali. Partout où il est passé, il a rencontré les autorités des deux pays. Christophe Bigot était arrivé hier jeudi à Goma en provenance de Beni avant de poursuivre son voyage à Bukavu. Goma, Bernard Ngangi, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la commémoration ce vendredi du 25e anniversaire de l'assassinat de l'archevêque de Bukavu au Sud Kivu. Monseigneur Christophe Munziro Mwinengabo avait été abattu par des militaires de l'AFDEL lors de l'occupation de la ville en 1996. Pour honorer sa mémoire, une messe d'action des grâces a été dite ce vendredi à Nyawera, dans la commune d'Ibanda, à l'endroit où le prélat avait été tué. Emmanuel Elamejo Kabili.
L'archevêque de Bukavu est assassiné lors de la prise de Bukavu par les éléments de l'AFDEL le 29 octobre 1996. Plusieurs témoins encore vivants reviennent sur ce qui s'était passé ce jour-là. Alors que les coups de balles se faisaient encore entendre sur la ville, Christophe Munziro quitte Vamaro et prend la direction du collège Alfadiri à l'est de la ville. Il tente d'aller sauver les sœurs dont la sécurité n'était pas garantie. Arrivé sur la place dite Nyawera, en plein cœur de Bukavu, il est stoppé par un groupe de militaires occupants. S'en est suivi une longue discussion. Ce sont les occupants d'une deuxième voiture qui venaient par derrière et qui ont réussi à s'échapper et vivre la scène à distance. Selon leur témoignage, c'est au-delà de 18h30, après longue discussion, que Christophe Munziro sera abattu sur le même endroit. Il a fallu attendre le lendemain à la mi-journée pour que son corps soit retiré par le père Xaverien, alerté par un passant. Né en 1926, ordonné prêtre en 1958, Christophe Munziro est nommé archevêque de Bukavu en 1994. Il est mort le 29 octobre 1996. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Okapi.
Justice à présent, peut-être une lueur d'espoir pour les femmes qui avaient été victimes de viols massifs à la prison de la Kasapa à Lubumbashi par leur co-détenu il y a plus d'une année. Le tribunal des grandes instances a ouvert hier jeudi le procès. Le président de l'ONG Justicias Bell salue le début de ce procès. Timothée Mbuya émet cependant quelques craintes sur son déroulement. Il le dit à Jean Gandou.
Justice a émis quelques craintes dans le déroulement de ce procès, dans ce sens que plusieurs femmes ont déjà été libérées et qu'à l'audience de ce 28, seulement 16 parties civiles ont été constituées. Il sera difficile de retrouver les traces des autres femmes qui sont pratiquement dans la nature. Une autre crainte, c'est le fait que plusieurs personnes sur qui pesaient les soupçons des culpabilités avaient été déjà libérées. Une autre crainte, c'est qu'il sera très difficile pour le ministère public de faire asseoir ses arguments dans la mesure où le ministère public à l'époque a eu très difficile à poser d'autres actes pour avoir suffisamment de preuves. C'est notamment solliciter une expertise médicale en vue de rapports sur l'état de santé de ces différentes femmes. Donc ce procès, c'est un pas de plus dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles, mais également il va se dérouler dans des conditions extrêmement difficiles.
Actualité internationale.
Joe Biden est arrivé en Italie où l'attend un programme chargé jusqu'à dimanche. Première étape, le Vatican, où il a été reçu par le pape François la première fois depuis qu'il est président américain. Selon le Vatican, cette rencontre privée a duré 1h30. C'était l'occasion d'afficher leur proximité par les deux dirigeants sur les grands enjeux internationaux. L'ancien président français Nicolas Sarkozy sommet de venir témoigner mardi prochain à Paris au procès de ses anciens collaborateurs dans l'affaire des sondages de l'Élysée, a confirmé aujourd'hui sa présence au tribunal. Nicolas Sarkozy a confirmé donc aujourd'hui qu'il sera au tribunal et qu'il n'est pas utile de faire appel à la force publique. Au Soudan, des milliers de personnes vont manifester demain samedi matin contre le coup d'état militaire du général Abdel Fattah al-Burhan qui a dissous récemment les autorités de transition et arrêté en même temps les dirigeants civils. Dans le pays, c'est la consternation. Alors que le pays venait d'entamer une transition vers la démocratie, c'est un véritable retour en arrière. Au Gabon, le verdict contre Brice Alihanga, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, est tombé aujourd'hui. Il était présenté comme le tout-puissant quand le président avait été éloigné du pouvoir par un accident cardiovasculaire en octobre 2018. Tombé en disgrâce, il était incarcéré et poursuivi dans plusieurs affaires. La justice gabonaise l'a condamné à 6 ans de prison ferme et au paiement de 5 millions de francs CFA d'amende.
L'invité.
Notre invité, c'est le chargé de programme de Interpice. Bienfait Mouigiroua parle de la gouvernance inclusive, un projet qui a été lancé récemment au Kassai et au Kassai central, mais aussi dans le Maïndombe. Objectif affiché, consolider la paix après les événements des Kamouina-Sapou. Il s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Bienfait Mouigiroua, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
La gouvernance paix, c'est un projet qui va être mené au Kassai. C'est quoi ce concept de gouvernance paix?
En fait, d'abord, tout est parti de la crise qu'a connue le Kassai central, avec les conflits qui ont entraîné en fait la perte de beaucoup de vies humaines et aussi beaucoup, je dirais, des dégâts au niveau de la province. Alors, on s'est dit qu'il serait mieux de mettre en place un projet qui pourra impliquer et inclure toutes les couches de population dans la gestion du processus d'épée dans cette province. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes, n'est-ce pas, en train de lancer le projet que nous avons intitulé « La gestion de la gouvernance inclusive de la paix en République démocratique du Congo » et plus particulièrement dans la province du Kassai central.
À la suite des événements de Kamouina-Sapou, il y a des choses à faire pour consolider la paix. Alors vous parlez de cette gouvernance inclusive. Qu'est-ce qui va être fait?
Voilà, ce qui va être fait d'abord en amont, c'est d'abord une étude pour pouvoir avoir une nouvelle dynamique, n'est-ce pas, des conflits dans la zone et de pouvoir faire aussi la cartographie des acteurs pour savoir quels sont ces acteurs-là qui sont impliqués aujourd'hui dans le processus de consolidation de la paix dans la province du Kassai. Et à côté de ça, en fait, il y a la mise en place des groupes de travail inclusifs qui sont constitués des différentes couches de population, donc au niveau d'abord des gouvernants, il y a les organisations de la société civile, il y a en fait les autorités politiques ou administratives qui sont dedans, les leaders religieux, mais aussi les chefs coutumiers. Donc ça va être toutes les couches représentées ensemble pour pouvoir organiser différentes activités sous forme de dialogue au sein de communautés et dans les différentes zones ou dans les différents territoires, mais aussi d'autres activités en termes de plaidoyer, mais aussi des sensibilisations dans les différentes zones. Donc en bref, c'est une manière, n'est-ce pas, de pouvoir impliquer tout le monde dans la gestion du processus de consolidation de la paix dans la zone.
C'est vrai que Interpice travaille avec TDH au Kassai. On a vu TDH mener un dialogue civilo-militaire. Alors, est-ce que c'est la même chose ou il y a quelque chose qui va changer dans les cadres de ce projet qui implique beaucoup d'acteurs actuellement?
En fait, ce qui change aujourd'hui, c'est l'engagement politique. Hein, parce que déjà, il y a des dialogues ou tout fou, il y a des activités qui étaient jusque-là gérées juste au niveau communautaire, entre les parties en conflit, bien entendu. Mais il a manqué, en fait, l'aspect de la participation, de l'implication de l'État, qui dirait, dans ce processus. Et raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons pensé qu'il faudrait inclure, il faut impliquer l'État congolais dans la gestion du processus d'épée au Kassai. Et raison pour laquelle, lorsque j'ai parlé de groupes de travail intégrés, plutôt inclusifs, en fait, c'est que c'est des groupes qui sont gérés directement par l'État à travers le ministère de l'Intérieur au niveau provincial et la vice-primature de l'Intérieur au niveau national.
Le projet va s'installer sur quelle période et il prend compte quel espace?
Le projet, d'abord, pour commencer, est financé par l'ambassade suédoise en République démocratique du Congo, donc l'ambassade de la Suède, évidemment à travers SIDA, pour une période de 4 ans. Et le projet s'étend dans 3 zones, donc 3 provinces. Il y a la province du Kassai, Kassai central et Maïndombe, pour parler de Kananga, Tchikapa, il y a aussi Yumbi. Justement, donc, ça sera la même chose, étant donné que le contexte est presque similaire partout, parce que c'est des zones qui ont connu, en tout cas, des crises du point de vue conflictuel, où les communautés étaient déchirées et où il y a encore quelques trace en fait des conflits. Donc maintenant, nous sommes dans une phase vraiment de la participation, de la gestion participative et des conflits dans ces zones.
Alors, qu'est-ce qu'Interpuce attend des acteurs impliqués dans ce projet?
Ce qu'on attend d'abord des acteurs, c'est d'abord l'engagement. Donc, comme vous le constatez, pour les lancements, donc il y a les différents groupes, les différentes composantes qui vont devoir signer leur engagement pour accompagner le processus de consolidation de la paix dans la zone. Et nous, de notre côté, en fait, nous sommes là, comme d'habitude, pour les accompagner, pour les appuyer aussi du point de vue technique.
Monsieur Bienfait Mouhigi Roy, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, je vous remercie aussi.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chargé des programmes à Interpeace. Bienfait Mouhigi Roy était interviewé par François Kadima. Il est 18h20 à Kinshasa, c'est la fin de cette édition d'information. Merci infiniment à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Ben Kabamba. Retrouvez cette édition d'information sur www.radiookapi.net.